Bonjour et bienvenue sur le plateau de Métamorphose. Aujourd'hui, on sort les thermomètres, on va vous parler du climat. Je suis sur le plateau avec Sandra Blondel, ma co-animatrice, et Emmanuel Chouin, notre chroniqueuse. Pour aborder ce sujet, nous avons invité Jérôme Sambucy, météorologue, et Cyril Pimentel du collectif Climat Marseille. Chers auditeurs, il paraît qu'il fait chaud, il paraît qu'il fait très très chaud. Rien ne va plus, les glaciers fondent, la mer monte, l'hiver se prend pour le printemps, en tout cas à Marseille, parce qu'à Marseille, même la chaleur s'accentue. Respirer des particules fines devient élémentaire, même quand on n'a pas lu Houellebecq. 25% des espèces animales et végétales menacent de disparaître d'ici 2050 si on baisse pas le chauffage. Alors le CNRS nous dit, évidemment le climat n'est pas le seul responsable. Déforestation, agriculture intensive, pollution jouent également un rôle. Ouf, j'ai eu peur, moi qui croyais que la déforestation, l'agriculture intensive, la pollution, que c'était tout ça qui faisait que c'était pas le bon climat. Enfin, le climat est très bon, mais trop bon pour la saison. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le truc qui est bizarre, c'est que nous, on se dit « Chouette, c'est trop cool à Marseille, on se baigne encore début novembre, on fait des selfies avec la plage derrière, on les envoie à nos copains de Colmar avec un petit mot bien sympa du genre « Ça va chez toi, pas trop froid ?» Bon, c'est vrai, le soir, on rentre à la maison et on se dit « C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Pourquoi il y a encore des moustiques à cette époque ?» Mais c'est pas possible les moustiques mi-novembre. Mais bon, malgré une nuit zébrée, parce qu'ils le sont de plus en plus, les moustiques, on est quand même content que le soleil brille de tous ses feux au-dessus des paquebots, parce qu'il paraît qu'un paquebot à l'arrêt, ensoleillé ou pas, pollue autant qu'un million de voitures, même pas à l'arrêt. Et oui, ils sont pas que beaux, et d'ailleurs moi je les trouve carrément moches, mais ça ne regarde que moi qui les regarde à peine. Donc je disais, nous on est content que l'hiver soit en Bermuda, mais les scientifiques s'affolent parce qu'il paraît que la planète a pris quasiment 1 degré depuis la période pré-industrielle. Alors vous me direz, 1 degré c'est rien, et ouais, mais si on se dit que la planète c'est comme nous, c'est-à-dire qu'elle a une température moyenne genre nous, c'est 37 degrés. Quand on est à 38 degrés, on dit qu'on a de la fièvre, on dit qu'on est malade. Et pourtant, on n'a pris qu'un degré. Eh bien, la Terre, c'est pareil. Elle a de la fièvre. Et c'est là que rien ne va plus. Comme la Terre a de la fièvre, tout le monde pète les plombs, les lacs s'assèchent, l'eau potable se raréfie. Du coup, il y a des conflits, les cyclones et les anticyclones. Et comme il y a moins d'eau, il y en a moins pour l'agriculture. Donc, les gens ont faim. Donc, ils migrent pour pouvoir se nourrir. Et les autres leur disent, bah non, c'est à moi, je t'en donnerai pas. Et pour être sûr qu'ils viendront pas se servir chez eux, ils s'enferment entre quatre murs. En même temps, ça les protège de la lumière de l'humanité, je veux dire. Parce que l'humanité, quand c'est trop lumineux, ça fait trop chaud au cœur. Et quand on s'y attend pas, et ben hop, il y a des débordements. Il y a des débordements de joie, d'émotion. Alors bim bam boum, on construit des murs comme ça, pas de débordement. Pas de débordement, c'est ce qu'on leur a dit aux personnes qui voulaient manifester dimanche pour la COP21. Enfin, ceux qui ont la coupe un peu pleine de voir que 20 COP n'ont pas suffi pour que les copains de la 21 s'engagent à prendre soin de la planète plutôt que des plateformes pétrolières ou encore des accords de libre-échange. Et ce qui était beau dimanche dernier à Marseille, c'est que malgré tout, ça a débordé. Ça a débordé des trottoirs, les sourires ont débordé des mâchoires. Les gens ne se sont pas laissés enchaîner à la peur, ils ont préféré s'enchaîner à l'humanité. Tant qu'à être dans une interdépendance dense, c'était beau, musical, joyeux et coloré. Voilà, en ces temps chaud chaud chaud, j'étais contente de pouvoir apporter des nouvelles fraîches et rafraîchissantes de nos amis les terriens. C'était mon point météo. Mais pour avoir un point de vue plus scientifique, on a convié Jérôme Sambucy. Bonjour monsieur Sambucy.
Bonjour.
Vous êtes météorologue, prévisionniste chez Météo France et vous avez étudié le dernier rapport du GIEC. Alors, c'est quoi exactement le GIEC ?
Alors, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En fait, c'est un ensemble de 3000 scientifiques qui font des rapports d'expertise pour les décideurs. Et ils intègrent en fait tous les travaux de recherche de par le monde qui sont faits, il y a à peu près 850 études dans le monde par an sur le climat. Et eux, ils en font la synthèse et ils présentent ça aux décideurs pour prendre les bonnes décisions.
D'accord. Donc en fait, quand on parle du dernier rapport du GIEC, en fait, ces rapports-là sont la synthèse d'autres recherches qui ont été faites par d'autres chercheurs.
Exactement. Et ce qui est important à noter pour le GIEC, c'est que le GIEC, c'est un ensemble de chercheurs dans toutes les disciplines concernant le climat. Des climatologues, des météorologues, des glaciologues, des océanographes. Et ce n'est pas quelques chercheurs dans leur coin qui, en fait... pondent des rapports à leur manière sur leur spécialité. C'est interdisciplinaire et c'est de par le monde.
D'accord, très bien. Merci Jérôme. Et le GIEC nous dit, les activités humaines, notamment l'usage des énergies fossiles, conduit à une hausse exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de serre qui a un impact sur le climat jamais vu auparavant. Alors je me dis que pour des personnes, c'est peut-être un peu du jargon tout ça. Donc quand on parle d'effet de serre, quand on parle d'énergie fossile, en fait de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors les énergies fossiles, c'est les énergies qu'on a tirées du sol et en fait qui ont mis des millions d'années à se... à se constituer et elles se sont constituées par la décomposition de végétaux et d'animaux par les bactéries et ça a mis de très longues périodes à se former. Et là, à partir de l'ère industrielle, les pays occidentaux notamment ont eu besoin un grand besoin d'énergie et ont tiré du sol le charbon, le pétrole, le gaz, qui sont donc ce qu'on appelle des énergies fossiles, fossiles dans le sens où ça a mis des millions d'années à se former qu'on est allé les chercher sous les océans ou sous la terre. Voilà. Et ils ont en commun, en fait, de contenir du carbone et de l'hydrogène. C'est pour ça qu'on les appelle les hydrocarbures.
D'accord. Et en ce qui concerne l'effet de serre, parce que ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, qu'il y ait des gaz à effet de serre, c'est finalement pas si grave en soi. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une concentration, une augmentation de la concentration du gaz à effet de serre. Est-ce que c'est ça ?
Exactement. En fait, ce qui est surprenant, c'est que dans les médias actuellement, dans la période qu'on vit, quand on parle d'effet de serre, moi, j'ai tendance à mettre mon casque lourd et à descendre aux abris, en fait. C'est la cause de tous nos malheurs. Et au départ, l'effet de serre, c'est un effet qui est à la fois naturel et vital. Naturel parce que c'est un des constituants de l'atmosphère. Et vital, pourquoi ? Parce que si on n'avait pas ces gaz à effet de serre, en fait, qui retiennent une partie du rayonnement émis par la Terre réchauffé par le soleil, eh bien en fait à la surface de la Terre, au lieu d'avoir une température moyenne de 15 degrés, on aurait à peu près moins 18 degrés et la vie ne serait pas possible. Donc au départ, à retenir, c'est un effet naturel et vital. Le problème, c'est qu'à cause des énergies fossiles que l'homme est allé tirer de la Terre, des océans, depuis le début de la révolution industrielle, eh bien par leur combustion, on a émis dans l'atmosphère un surplus de gaz à effet de serre, notamment de CO2. Et ce surplus-là va accélérer et exagérer cet effet de serre et donc produit de la chaleur en trop. Voilà le souci.
D'accord. Donc le problème, si je résume, c'est l'extraction des énergies fossiles. Donc c'est l'activité humaine qui, en extrayant trop de ces énergies fossiles, finalement a augmenté la concentration de l'effet de serre qui, au départ, est un phénomène naturel qui est bon pour la planète. Mais finalement, trop de concentration fait que ça a un impact négatif sur le climat, que ça dérègle le climat. C'est bien
c'est,
ça?
C'est exactement ça.
Bon, ben, c'est parfait. Du coup, on va écouter Jean Jouzel, qui est climatologue et glaciologue français et qui est vice-président du GIEC.
Pourquoi on souhaite rester en deçà de 2 degrés à long terme, hein, c'est l'objectif de la conférence de Paris. Eh bien, c'est l'idée que si on y arrivait, on changera le climat malheureusement, et c'est inéluctable, mais on a quand même des chances de pouvoir s'y adapter pour l'essentiel. Alors, pas pour tout. Hein. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer sera de toute façon moins de 40 cm, et on comprend les pays qui se mobilisent pour plutôt un réchauffement d'un degré et demi par rapport au point industriel, c'est-à-dire un degré par rapport à aujourd'hui. Alors, donc une fois qu'on a, disons, adhéré, soit 1,5 à 2, pourquoi ? Eh bien parce que parce que 4 à 5, ce vers quoi on irait si rien n'était fait, eh bien ce sont vraiment des impacts auxquels il sera très très difficile, sinon impossible, de faire face. Donc il faut bien comprendre qu'un monde à 4-5 degrés à la fin du siècle, avec un réchauffement qui se poursuivrait par la suite, c'est un monde qu'il faut tout faire pour éviter. Il sera pratiquement impossible de s'adapter, que ce soit sur l'acidification de l'océan, les extrêmes climatiques, tous ces problèmes de réfugiés climatiques, de ressources en eau dans certaines régions, bien sûr, aussi, disons, les rendements agricoles seraient affectés, les écosystèmes complètement modifiés, la biodiversité serait... La perte de biodiversité serait exacerbée. On peut parler aussi de pollution, auquel il serait plus difficile de faire face, de phénomènes irréversibles. Je ne vais pas être trop long, mais c'est clair que 4 à 5 degrés, on ne parle même plus. Alors là, il y a des jeunes ici, c'est sympa, il y en aura qui seront là dans les 30 dernières années de ce siècle. Hein. Eh bien, ce serait faire, en une centaine d'années, le même chemin que notre planète a parcouru, hein, réchauffement de 4 à 5 degrés depuis le dernier maximum glaciaire, mais lui faire 50 à 100 fois plus rapidement. Alors, donc, il faut tout faire pour éviter 4-5 degrés. Alors, où en est-on ? Alors, pourquoi il y a urgence ? Eh bien, tout simplement, si on ne faisait rien pour, ralentir l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, si on ne fait rien, eh bien, en 2020, il sera trop tard. C'est-à-dire qu'en 2020, si on ne faisait rien, quoi qu'on fasse après ? Quoi qu'on fasse après, eh bien, on irait au moins vers 3 degrés. Donc, il faut agir maintenant. C'est-à-dire que les 5 années qui viennent sont essentielles. Bien sûr, on parle de l'après-2020, mais il faut toujours rappeler que l'avant-2020 est essentiel. Nous sommes dans la deuxième phase du protocole de Kyoto qui n'a eu aucune ambition. Et justement, c'est un des objectifs de la conférence de Paris, de lui donner de l'ambition. Donc c'est vraiment essentiel, de bien sûr, d'avoir une action tout de suite, ensuite d'avoir une action extrêmement volontariste, puisque c'est un vrai changement de mode de développement, de diminuer par 3 ces émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2050 et d'arriver à neutralité carbone à la fin du siècle. Ce sont des objectifs ambitieux, mais ce sont les seuls qui puissent nous permettre d'espérer rester en dessous de 2 degrés à long terme, et donc vraiment de garder une certaine capacité d'adaptation. Il y a vraiment péril en la demeure si on ne fait rien. Et faire quelque chose, c'est vraiment changer complètement. C'est laisser 80% des combustibles fossiles facilement accessibles, des réserves là où elles sont. Donc, et je redis que c'est un changement de mode de développement. Et aux jeunes qui sont ici, je dis souvent quand j'ai des jeunes que c'est tout aussi enthousiasmant d'avoir devant soi un monde à changer que de devoir poursuivre sur le type de développement sur lequel ma génération, Michel aussi, on s'est un peu construit quand même, c'est-à-dire, les 30 glorieuses et beaucoup d'utilisation de combustibles fossiles. Donc, merci de votre engagement, à vous tous et à toutes.
Alors Jérôme Sambucy, Jean Jouzel nous parle d'acidification des océans, rêve de réfugiés climatiques, la raréfaction des ressources en eau, les impacts sur le rendement agricole. En fait, quelle est la nature des risques selon l'endroit où on se trouve dans le monde ?
Alors, ils sont de plusieurs ordres. Il y a des zones, en fait, où le GIEC, de par son rapport d'expertise, a pointé des régions, en fait, où les cartes de précipitation ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire des régions à sécheresse à l'horizon 2100 et des régions, au contraire, qui sont plus arrosées que la moyenne. Les régions à sécheresse sont déjà, par ailleurs, des régions où il y a des problèmes de ressources en eau. Et ça va les aggraver. Ça va les aggraver en quantité et en qualité. En qualité, pourquoi ? Parce que quand on a moins d'eau disponible, en fait, les polluants qui sont déjà là, ils sont concentrés. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la sécurité alimentaire, ces zones-là qui seront moins arrosées auront des températures trop chaudes aussi pour l'agriculture. Et donc, ça va faire chuter les rendements et de manière énorme. D'autre part, il y a des régions qui seront un peu plus arrosées avec des températures plus clémentes, où là, on pourrait penser qu'ils en profiteront. Mais en fait, ça va provoquer un accroissement des inégalités et au total, le rendement agricole mondial va baisser. Donc, cet accroissement d'inégalités va provoquer un afflux de réfugiés climatiques, forcément, ça par millions. Ensuite, il y a des impacts sur la santé. Vous vous rappelez de la canicule 2003, 15 000 morts en plus en France, ne serait-ce qu'en France. Eh bien, en fait, si on ne fait rien, les gens du GIEC ont projeté que, avec la courbe des températures, en 2070, l'été 2003 sera un été standard. Voilà, ouais. Ça donne une idée de l'ampleur des problèmes, par exemple, sur la santé. Ensuite, il y a une menace, comme le disait Jean Jouzel, sur la biodiversité, c'est-à-dire que les espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales, eh bien, elles ont un biotope bien adapté à elles. Et avec la vitesse du changement de ce biotope, eh bien, en fait, elles vont devoir parcourir des distances pour retrouver un biotope qui est à nouveau favorable à leur vie. Et ça, toutes les espèces ne sont pas égales devant. Et donc, on estime qu'entre 2 et 3 degrés, c'est à peu près 30% de menaces sur la biodiversité, et au-delà de 3 degrés, on estime que c'est un risque d'extinction massive des espèces. Voilà, et en fait, une dernière menace aussi, c'est sur les milieux naturels en général, notamment la vie dans la mer. Eh bien, il faut savoir que la température des océans se réchauffe, les coraux en souffrent. Les coraux, c'est un biotope pour la vie dans la mer qui est fondamental, et on estime qu'au-delà de 3 degrés, tous les coraux risquent de mourir de par le monde. Mm-hmm. Donc vous voyez que dans tous les domaines, en fait, il y a des risques pour la planète.
On parle d'acidification des océans, c'est ça, hein ?
Alors, l'acidification des océans, en fait, les océans, ils ont un grand bienfait sur le CO2, c'est que c'est un puits énorme de CO2, c'est-à-dire il absorbe du CO2. Et ça, tant mieux pour l'atmosphère où il y en aura moins et donc il provoquera moins de réchauffement. Mais, il y a un grand mais, c'est que cette absorption-là a une contrepartie, c'est le fait qu'il y a une réaction chimique qui provoque une acidification. Et du coup, les espèces qui vivent dans l'océan vont en souffrir et ça va les menacer.
Oui, et pour les fines bouches, alors pour parler c'est un petit peu plus superficiel, mais quand même, donc quand vous parlez des impacts sur l'agriculture, Il paraît aussi que, du coup, pour aller boire du champagne, il faudra aller en Angleterre. C'est bien ça, parce qu'en fait, il va y avoir du coup...
Alors, avec le changement climatique, toute la zone sud de la France, qui est grande productrice viticole, eh bien, en fait, on risque d'avoir un climat qui est plus adapté aux cépages, par exemple, nord-africains, ce qui n'est pas un problème en soi de produire du Boulaouane ou du Sidi Ibrahim. Mais par contre, notamment pour un pays comme la France, et symboliquement, de voir son champagne et son Bordeaux cultivés dans le sud de l'Angleterre, ça fait mal.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Monsieur Sambucci? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est encore temps, d'abord, d'éviter ces risques? Et comment est-ce qu'on peut faire pour les diminuer?
Tout à l'heure, je vous ai parlé du GIEC, mais en fait, le GIEC, il a trois missions principales. La première mission, c'est d'étudier l'évolution du climat. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire il y aura un changement climatique peut-être réduit ou fort, suivant l'attitude qu'on aura. Et ça, il va falloir s'y préparer pour pas avoir de conséquences néfastes. Et la troisième, c'est l'atténuation, c'est-à-dire la lutte contre la cause. Puisqu'on sait qu'on est responsable du réchauffement, il faut faire des choses. Et justement, là, on a ce qu'on appelle des actions sans regret. C'est-à-dire, on va prendre une série d'actions dans tous les domaines. Pourquoi action sans regret? C'est que, quand bien même il n'y aurait pas de réchauffement, la planète va y gagner. Donc on a tout à gagner à faire ces actions-là. La première, par exemple, pour citer un exemple, c'est de bêtement ne plus consommer autant d'énergie, économiser l'énergie. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de produire propre si on gaspille l'énergie. Ça, c'est la première des mesures. Et après, dans tous les secteurs, il y a des choses à faire. Il faut développer les énergies renouvelables pour produire une électricité, par exemple, décarbonée. Il faut, dans le moyen, par exemple, dans le secteur des transports, développer les transports publics, encourager le vélo, encourager la marche à pied. Dans l'agriculture, d'énormes choses à faire, par exemple du reboisement, de la relocalisation de l'agriculture et l'utilisation de moins d'engrais. Il y a des tas de choses à faire. Et par exemple, dans l'industrie, il faudra innover pour avoir des processus moins gourmands en énergie, par exemple.
Et donc, quel est le rôle des États dans cette histoire? Puisque depuis le 30 novembre a commencé au Bourget la COP21, c'est l'événement diplomatique le plus important que la France n'ait jamais organisé, avec la présence de plus de 150 chefs d'État. Alors Jérôme Sambucci, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une COP et quel est l'enjeu particulier de cette 21e?
Alors, pour expliquer ce qu'est une COP, il faut un peu retracer le déroulé historique des négociations internationales sur le climat. En 1988, il y a la création du GIEC. Ça, c'est la première étape. En 1992, il y a le sommet de Rio. Ça, c'est une date fondamentale. Le sommet de Rio, c'est la première fois que les pays qui se réunissent adoptent ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, où en fait, tous les pays se disent « Eh ben, il y a un souci sur le réchauffement climatique, il va falloir prendre des mesures. » Et ces mesures-là, on va se réunir chaque année. Chaque année, on va avoir une réunion où on va prendre des mesures concrètes pour alimenter cette convention cadre. Ces réunions annuelles, on les appelle les COP, les conférences of parties en anglais. Et en fait, depuis 1995, en fait, chaque année, il y a une COP, et là, c'est la 21e. Alors, pour faire rapide sur l'historique, deux COP fondamentales, 97, Kyoto. Pourquoi Kyoto? Parce que c'est la première fois qu'un protocole est adopté qui prévoit... Pour les pays, seuls les pays industrialisés, le fait de réduire les gaz à effet de serre de 5% à l'horizon de 2008-2012. Alors, c'est un petit pas, mais c'est un pas fondamental parce que c'est le premier accord. Ensuite, Copenhague 2009. Copenhague avait pour but notamment de prolonger Kyoto jusqu'en 2020, cet accord-là. Or, Copenhague, c'est un échec. C'est un échec, pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas entendu entre pays anciennement industrialisés et pays émergents. Ils se sont renvoyés la balle de la dette climatique. Les pays pauvres ont dit, mais attendez, tout le CO2 qui est dans l'air, c'est vous qui l'avez produit historiquement. Ne nous demandez pas, nous qui à peine nous développons, de faire des efforts. Et les pays développés ont répondu aux pays pauvres. Certes, mais on l'a fait sans le savoir. Certes, mais votre propre développement s'appuie sur le nôtre. Et puis, autre point, c'est que depuis votre développement dans les années 80-90, eh bien c'est là que l'augmentation des émissions à effet de serre s'est accélérée. Donc vous devez payer aussi. Donc il y a un échec. Donc depuis finalement Kyoto en 97, il n'y a rien qui a été signé. C'est-à-dire ça fait pratiquement 18 ans qu'il n'y a aucune signature sur le climat. Donc la COP 15... La COP 15, la COP 21 à Paris, eh ben elle est en 2015 fondamentale parce que depuis 18 ans, il n'y a rien de signé. Et si on ne fait rien à ce moment-là, eh bien le climat, on n'arrivera pas à le sauver avec le CO2 qui est accumulé dans l'air.
Donc après cette mise en perspective historique, on comprend bien l'importance du moment qu'on est en train de vivre. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement le fonctionnement complexe des conférences des parties et nous donner les différents temps forts qui rythment les deux semaines de la COP?
Alors, vous l'avez remarqué, le premier jour, les chefs d'État font des déclarations. Ça, c'est les déclarations de principe. Ensuite, première semaine, il y a les négociateurs professionnels. Alors, ces négociateurs professionnels, ils sont mandatés pour les États pour affiner l'accord qui va être ou pas signé. Et ensuite, en seconde semaine, ces négociateurs-là sont appuyés par les ministres, notamment les ministres en général de l'Environnement et des Affaires étrangères, pour compléter les négociations et prendre les véritables décisions politiques. À côté de ça, ce sont les négociateurs. Il y a d'autres participants à la COP 21. C'est un peu la nouveauté d'ailleurs de cette COP. Et ces participants-là sont dits de la société civile. Alors, il y a des ONG, il y a des syndicats, il y a des mouvements des peuples autochtones, il y a des mouvements de jeunes, des mouvements de femmes, il y a même des organisations religieuses. Et tout ça, en fait, ils n'ont pas le même statut, par contre, que les négociateurs. Ils ne participent pas directement aux négociations, mais par contre, ils font des débats où il y a des discussions informelles avec les négociateurs, et en fait, ils influencent en fait le cours des négociations sans participer directement aux négociations.
Et du coup, à ce sujet, je vous propose d'écouter Tchétchéveri, qui est un des fondateurs du mouvement Alternatiba, sur les enjeux de la société civile pendant la COP 21.
Ce qui est en jeu, c'est les rapports de force qui vont se créer et qui vont faire que, dans les quelques mois et les quelques années à venir, on va gagner un certain nombre de batailles décisives. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand il y a eu le sommet de Copenhague, on dit que ça a été un échec parce qu'il n'y a pas eu les accords, les mesures concrètes qui ont permis justement d'aller dès 2009 dans une direction permettant de limiter à plus de degrés. Donc ça s'est fini par un échec, une absence d'accord. Mais après Copenhague, 5 ans après, il y avait à travers le monde 500 lois de transition énergétique, de politique climat-énergie, par région, par État, etc., contre 47 ou 49, je ne me rappelle plus, avant Copenhague. C'est-à-dire qu'on était, grâce à cette énorme mobilisation et ce truc qui s'est passé pendant l'année 2009 à Copenhague, on avait quand même changé la réalité des choses concrètement dans les États, dans les régions. Et aujourd'hui, s'il y a un certain nombre de débuts de politiques de transition à l'échelle de régions, de villes, d'États dans le monde, c'est notamment dû à ce qu'on a réussi à faire pendant 2009 et cette pression énorme qui a été créée. Aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire, d'abord, il y a des batailles essentielles à gagner dans cette COP 21, même si on sait que l'accord lui-même ne va pas être à la hauteur de la situation, mais il y a des batailles très très importantes à gagner, notamment par rapport au financement permettant aux pays du Sud de mettre en place d'ores et déjà des politiques d'adaptation qui leur permettent de se protéger contre les conséquences du réchauffement climatique qui existe déjà et qui va monter dans les années à venir. Et forcément, si on arrive à avoir ces financements massifs, et ça va être une des grosses batailles de cette COP, le sort des populations qui vivent dans ces parties du monde va être complètement différent dans les années 2040-2050. Et les conséquences de leur sort sur nos vies à nous aussi. Parce qu'évidemment, si vous avez des territoires entiers, là, en parlant de centaines de millions, de milliards de personnes, qui sont invivables, inhabitables, avec des conditions de vie inhumaines, forcément, ça va se répercuter sur ici, comme on le voit aujourd'hui, avec ce début de situation, des migrants, de la déstabilisation de quelques parties du monde. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres batailles à gagner dans cette COP, et notamment toutes les ONG, un certain nombre d'États qui demandent, qui se battent pour avoir des mécanismes de révision très vite de l'accord, c'est-à-dire qu'ils disent ça, c'est pas du tout suffisant et il faut le réviser très vite et il faudra le considérer comme le plancher et avoir un mécanisme de révision qui le révise à la hausse. Tout ça, ça se joue. Ça va se jouer dans la négociation de la COP là, et donc il y a des batailles à gagner quand même dans cette COP. Et ce qui se joue aussi, c'est est-ce qu'on aura réussi ou non à faire que cette COP se transforme en climat d'anormalité, de tension, non pas lié aux attentats de Daesh, mais lié à ce que l'ensemble des mouvements auront permis justement de faire passer le message à l'opinion publique mondiale que cet accord est complètement insuffisant et qui nous amène à brûler la planète. Et parce qu'il y aura un contre-discours en face des gouvernants qui vont dire « Ouais, super, on a fait un accord, on est en train de s'occuper du climat, et donc, vous inquiétez pas, tout va bien. Et selon le message qui sortira de ces 15 jours, vous aurez une population mondiale en tension, en alerte, qui se dit, on a un grave problème, et les messages de mobilisation, de pression, de renforcement des alternatives, d'interpellation de leurs dirigeants locaux, régionaux, etc., auront une efficacité, une force, ou non. Parce que c'est très difficile à mobiliser une population endormie qui a intégré le fait qu'en fait, ils ont trouvé un accord qui stabilisait le climat. Et c'est pas pareil, une opinion publique mondiale qui se dit « Waouh, en fait, ils ont rien fait à Paris, ils n'ont pas réussi à gagner ce pari. » Et donc là, c'est à nous de faire pression, etc. Et en fait, ce climat de mobilisation ou non qu'on arrivera à créer pendant la COP21 va être une matrice de ce qui va se passer dans les années à venir et va faire que des campagnes comme le désinvestissement, comme l'exigence de l'arrêt des subventions aux énergies fossiles et tout un tas de batailles comme ça, comme des pressions sur les multinationales pour qu'elles arrêtent un certain nombre de comportements climaticides, etc. Toutes ces batailles-là, elles auront ou non la force de gagner dans les années à venir selon ce qu'on aura créé dans cette COP. Et du coup, cette importance de mobilisation dans ce contexte extrême où il y a eu ces attentats sanglants, où l'État en profite du coup pour stopper court à toutes les mobilisations climat, alors qu'il laisse dans le même temps, dans une même ville, il y a une chaîne humaine qui est interdite alors qu'ils autorisent un marathon sportif. Et ça, c'est pas par hasard, c'est parce qu'eux veulent justement qu'il n'y ait pas cette lecture à la fin qui dise non, votre accord que vous vantez comme un truc super bien, il n'arrive pas à stabiliser le climat. Et ça, c'est de notre responsabilité.
Donc, grosse pression, on aura compris, pour la société civile pendant cette COP. Qu'en pensez-vous, Jérôme Sambucy ?
Elle est absolument nécessaire, cette pression-là, parce que les politiques sont en train de négocier. Les négociateurs, en fait, il faut réaliser qu'ils sont sous influence quand même de lobbies puissants. Ça, il ne faut pas se le cacher, notamment les lobbies pétroliers qui ont beaucoup à perdre dans la bataille. Et face à ces lobbies-là, il est important de ne pas laisser les politiques seuls, mais de faire sentir aux politiques qui sont soutenus par un mouvement soutenu ou combattu, suivant leur position, par un mouvement citoyen puissant. Ça, ils ne sont pas insensibles à ça. Et l'autre avantage de gagner cette bataille de l'opinion, en fait, c'est de faire progresser dans les têtes le fait qu'il y aura des mesures à prendre, que ces mesures-là, peut-être, seront contraignantes dans un certain sens, mais seront nécessaires à la survie de la planète et seront acceptées par les gens quand ils sont dans l'action. Ça, c'est très important.
Merci, Jérôme Sambucy.
Parmi vous, une goutte de pluie ou une larme de pluie sur les joues de notre planète Terre. Mère, pardonne-nous, l'homme a créé ce tourbillon qui nous a tous rendus fous. Folie générale, même les climats ne tiennent plus le coup. Nos vies ternissent par notre faute, on en a même perdu le goût. J'ai peur du coup, pourtant j'ai bien vu la lueur du gouffre. Du moins je l'ai aperçu en éclairant un peu mon cœur du fou. Oui, que le soleil, la lune, les arbres, les mers nous pardonnent. Toutes les espèces vivantes que la mienne a exterminées. Je demande pardon pour ce que tout le mal qu'on a créé. Faudra de la force pour le réparer. Et que j'ai du mal à voir que ce monde est prêt. L'immonde est près de nous. Mais j'ai la foi que ça change. Ça paraît fou. Une goutte de plus. Peut-être une goutte qui dérange. Une goutte noyée. Dans un océan qui se déchaîne. Et tant de nous broyer. Voyez, on n'a pourtant pas de haine dans les gènes. Tant pis, on part de là. Mais on peut aller loin. L'enfant, chacun le sait. Même si on fait comme si tout allait bien. Que la rage demeure. Fait naître tant de violence dans nos cœurs. Trop de conflits en pagaille. Aux ondes qui s'installent dans nos peurs. Venez pas faire un tour dans nos esprits en bordel. Mélancolie, une goutte de plus. Et le poison devient mortel. Simple reflet d'un monde particulièrement en bordel. Juste une goutte de plus pour que déborde le vase ou le cocktail. Parce qu'il suffit d'une goutte de plus parfois pour que tout change. Rééquilibrer, faire basculer, pas besoin de beaucoup de chance. Juste du goutte à goutte avant que le sablier ne se vide. Limpidement le temps s'écoule et la raison ordonne de fuir. fuir vite, le cœur dit de se battre. Et même si c'est trop tard, dignement, allons-y pour le geste et pour que nos idéaux partent, rejoindre le ciel. Qu'on en reçoive les pluies, juste une goutte pour chacun, une goutte qui suffirait à remplir chaque cœur, même si le temps écrit tristesse. On aperçoit la lumière au loin, l'impératrice mélange en calme et ivresse qui, goutte à goutte, nourrit lorsqu'on s'en approche. Loin de cette maudite flaque, reflet d'une époque atroce. Une lumière qui semble être la source, qui se déverse dans les cœurs pleins d'espoir et qui fait fondre la frousse. Que la vie nous donne le courage de ne plus voiler la face. Une goutte de crainte, de compassion, juste une goutte qui soulage. Je ne suis qu'une goutte de plus noyée dans l'océan qui sait qu'à nous tous on pourrait faire plein de vagues et tout éclabousser. Poussé par un vent de sagesse émanant du ciel, un peu plus de foi à la mienne, elle m'a rendu sienne. Que chaque maillon se ressoude et reconstitue la chaîne. Et si ce monde veut notre peau, gardons l'esprit et la chair, on y arrivera. Même si ici le mal est bien important, parce qu'on est tous une goutte de plus et que chaque goutte est importante. Importante, chaque pensée, chaque mot, juste une goutte de plus. Chaque geste, chaque action, juste une goutte de plus. Chaque personne, juste une goutte de plus. Juste une goutte de plus. Partout, les croyants d'une longue chaîne. Et qu'on peut tout changer le monde à son échelle. Car tous les maillons d'une longue chaîne. Et qu'on peut tout changer le monde à son échelle. Michel.
C'était Kenny Arcana, une goutte de plus tirée de l'album Entre Ciment et Belle Étoile. Une goutte de plus, ou qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau? Quelle est notre part de colibri? Dimanche 29 novembre à Marseille, il y avait environ 3000 petits colibris, 3000 gouttes de plus pour signifier que l'urgence climatique est l'affaire de tous. On les écoute.
Libérer les piétons enfermés dans les voitures. Change le système, pas le climat. Change le système, pas le climat.
Climatique.
État d'urgence
climatique.
État d'urgence climatique.
Les voix.
C'était le son de Philippe Poussin.
Donc face à l'état d'urgence climatique, donc 3 jours après les attentats du 13 novembre, Manuel Valls annonce à la radio que la COP21 se réduira aux négociations et que toutes les manifestations seront annulées. Ce jour-là, alors que le salon Millipol, le salon mondial de la sécurité et de la sûreté, qui a lieu du 17 au 20 novembre, les marchés de Noël, notamment celui des Champs-Élysées, les matchs de foot, les concerts sont maintenus. Donc ce jour-là, le gouvernement donne un coup de massue aux mobilisations préparées depuis des mois et des mois par la société civile. Ce jour-là, l'État décrète que le réchauffement climatique ne concerne pas la société civile. Ce jour-là, le droit de manifester devient criminel. Et ce n'est que le début des restrictions de nos libertés et d'un Patriot Act à la française. Et selon la révision constitutionnelle, l'état d'urgence pourrait même être prolongé pour 6 mois. Donc je n'entre pas dans les détails des 24 assignations en résidence adressées dans les jours précédant l'ouverture de la COP à des militants écologistes qui doivent pendant toute la durée de la conférence pointer 3 fois par jour au commissariat et rester à leur domicile de 20h à 6h du matin et ce jusqu'au 12 décembre. La Ligue des droits de l'homme dénonce un détournement de l'état d'urgence à des fins politiques plus que sécuritaires afin de bâillonner la société civile et dans un communiqué intitulé « Le ministre de l'Intérieur, père Sénère, confond et assimile le mouvement associatif au terrorisme ». Donc c'est dans ce contexte de dérive autoritaire et sécuritaire de l'État qui ne présage rien de bon pour les régionales, n'oubliez pas d'aller voter demain, qu'ont eu lieu les chaînes humaines du dimanche 29 novembre. Donc des milliers de personnes dans toute la France ont bravé l'interdiction de manifester et ont rejoint l'appel lancé par Alternativa et Attac pour montrer que malgré tout, la société civile est debout, main dans la main, dans la rue. Et franchement, ça fait du bien. Et pour parler de ce beau rassemblement populaire qui a eu lieu à Marseille, nous accueillons maintenant Cyril Pimentel. Donc Cyril, bonjour. Vous faites partie donc des personnes qui ont organisé la chaîne humaine de dimanche dernier, qui a donc rassemblé des milliers de personnes entre le Vieux-Port et le parc Longchamp. L'an dernier déjà, en septembre 2014, à l'occasion de la marche de New York qui avait rassemblé 400 000 personnes et qui avait été la plus grosse manifestation américaine depuis la guerre du Vietnam, vous aviez déjà organisé à Marseille une marche, mais qui avait connu un succès un peu moins important. Alors, que s'est-il passé en un an? Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès dans ce contexte d'état d'urgence, puisque les gens ont désobéi et sont venus malgré tout porter l'état d'urgence climatique?
Oui, bonjour.
En fait, l'histoire, en tout cas à Marseille, elle commence déjà en 2009, puisque déjà en 2009, on avait organisé pendant un an avant la COP, donc la conférence à Copenhague, on avait déjà organisé des manifestations tout le long de l'année, mais la politique est un petit peu différente d'aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. À cette époque-là, on a organisé des événements tout au long de l'année, avec en point d'orgue une grosse manifestation le jour de la conférence. Désormais, le contexte n'est pas le même et là, la conférence, ça sera plutôt le départ, même si on a déjà organisé, comme vous venez de dire, des choses en début d'année. Là, la conférence, ça sera plutôt le départ d'une nouvelle chose et d'une mobilisation citoyenne plus grande et qui va perdurer pendant des années. Le gros problème de Copenhague, c'était que tout le monde a fait beaucoup de choses. On est arrivé à Copenhague et à Copenhague, patatras, tout est tombé. Tout le monde était déçu, tout le monde était démobilisé et il a fallu 6 ans pour reprendre le dessus, quoi. Et maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, ça va être le début d'une nouvelle mobilisation, en fait. Et donc, on a commencé en décembre, à organiser, donc 2014, à organiser et à prévoir cette COP. Alors, effectivement, la première fois de cette nouvelle remobilisation, on était peut-être une trentaine sur les escaliers de la gare Saint-Charles à Marseille. Une très belle mobilisation avec un très bel effet visuel, très bien pensé. Et petit à petit, on a vu, et on l'avait prévu parce que accueillir une conférence sur le climat en France, ça n'allait pas être anodin. Et on savait qu'au fur et à mesure de l'année, les gens allaient se mobiliser, même si au début de l'année, personne n'était au courant, en fait.
Mais est-ce que vous attendiez un tel succès? Parce que là, vraiment, malgré l'interdiction de manifester, les gens ont désobéi et ça prouve quand même une prise de conscience.
J'ai envie de dire, c'est pas malgré, c'est grâce. Puisque, alors bon, évidemment, ils n'ont pas interdit pour rien, hein, c'est évident. Je veux dire, quand on permet des concerts ou des matchs de foot, où là, c'est vraiment tangible, on peut faire une attaque de terroriste, et qu'on interdit des mouvements citoyens, c'est pas pour rien. De toute façon, ça fait bien longtemps qu'ils avaient peur de la mobilisation citoyenne pour la conférence. À Copenhague, c'était déjà le cas. Ils avaient déjà fermé les frontières avant même les attentats. Faut pas se le cacher. Et ça les arrange bien de pouvoir faire ça. Et les assignations à résidence, etc., etc. Et en fait, ça a eu. Alors, on s'est posé la question quand on a organisé cette marche. On s'est dit, mais alors, comme c'est interdit, il n'y a personne qui va venir. Et en fait, il y en a d'autres qui disaient, mais si, au contraire, les gens, ils vont vouloir braver l'interdit et ils vont venir. Alors, c'est vrai, jusqu'au dernier jour, on ne savait pas vraiment ce que ça allait être. Et en fait, grâce à ça, en fait, on a fait une mobilisation qui était exemplaire. Et très agréable, puisqu'en fait, au lieu de défiler comme on fait d'habitude, avec la police devant, la police derrière, vous faites un bloc, vous avancez, et puis après, c'est fini, vous vous dispersez. Là, au contraire, c'était très festif, c'était très, très agréable, c'était original, c'était dans une ambiance vraiment très, très agréable.
Donc justement, comment se sont passées les relations avec les forces de l'ordre cette fois-ci?
Ben, en fait, on a, pour assurer le succès de cette mobilisation, on avait déposé en préfecture une demande, enfin une déclaration en fait, de manifestation. Donc, c'est une déclaration pour un événement revendicatif. Et c'était OK pendant quelques temps. Et puis après, il y a eu cet état d'urgence, il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et qui concernait tous les événements relatifs à la COP21, mais à Paris. Et puis, on a continué les relations avec la préfecture, puis la préfecture nous a dit non, ça va aller, avec les services de renseignement, nous ont dit peut-être. Et puis, 5 jours avant, ils nous ont dit non, votre manifestation sera interdite, on va émettre un arrêté préfectoral interdisant la manifestation. Donc vous pourrez pas manifester et vous devez de communiquer par rapport à ça et d'utiliser les mêmes réseaux que vous avez utilisés pour mobiliser les gens pour leur dire qu'en fait c'est interdit. Et c'est ce qu'on a fait.
Et du coup, quels ont été ces réseaux qui ont participé à l'organisation de cette chaîne?
Alors, ça a été le parti pris à Marseille, mais aussi dans quasiment tous les autres endroits, c'est que la manifestation soit la plus inclusive possible. C'est-à-dire que on regarde pas qui vient, il n'y a pas de regard à avoir, on se bat tous pour le climat, qui que ce soit, et on prend tous ceux qui veulent se battre pour défendre la cause du dérèglement climatique. Donc évidemment c'était les citoyens avant tout qui étaient conviés, mais si d'autres organisations plus organisées, des collectifs ou des associations ou des syndicats ou des partis voulaient venir, ils étaient les bienvenus à partir du moment où ils venaient défendre la cause du climat, pas forcément leur venir avec leurs étiquettes et tout ça, c'était pas obligé mais ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais avant tout le message à faire passer c'était on se bat pour le climat tous ensemble.
Et puis il y avait aussi des chapitres, donc les montrer les communautés impactées, dénoncer les responsables du dérèglement climatique, porter les alternatives. Est-ce que vous pensez que dans cette chaîne, les messages ont bien été entendus par la majorité ?
Alors effectivement, à l'instar de ce qui s'était passé à New York, il était prévu de faire des blocs thématiques sur les personnes impactées, les gens qui ont les solutions, les gens qui dénoncent, etc. Bon, finalement, comme on n'a pas pu faire une manifestation en bloc, la manifestation s'est passée alors sur le trottoir parce qu'on n'avait pas le droit de manifester sur la voirie, en chaîne humaine parce qu'on n'avait pas le droit de se rassembler, mais on avait quand même un message à faire passer. Et ce message-là, on l'a amené de la mairie au parc Longchamp, donc à Marseille. Et donc, le message est passé, mais d'une autre façon, en fait. Voilà.
Quel était le symbole de terminer donc cette chaîne au parc Longchamp ? C'était important pour vous, il me semble.
Oui, alors ça a fait rapidement consensus en fait de terminer au parc Longchamp, parce qu'il faut savoir que quand même le parc Longchamp, c'est un des rares parcs qu'il y a à Marseille. Il y en a quasiment pas du tout. Il y en a très très peu pour une ville qui est très très grande, et pour une ville qui est très très polluée. Et malgré ça, malgré qu'on ait peu de parcs, et ben ils ont décidé de couper les arbres pour faire un parking de voitures. À croire qu'on n'avait pas assez de voitures dans cette ville. Pourtant, on est quand même la ville la plus polluée de France, la deuxième ville la plus embouteillée d'Europe, la ville où on a le moins d'aménagement cyclable, par exemple, pour donner un autre regard que celui de la voiture. Et malgré ça, malgré un plan de déplacement urbain qui dit qu'il faut réduire la place de la voiture, réduire le stationnement, eh bien, ils arrivent encore à couper le peu d'arbres qu'il y a dans la ville pour y mettre des voitures à la place. Donc il nous semblait important et symbolique en fait, d'aller dans ce parc-là, parce que ça symbolise bien aussi ce qui se passe localement, ce qui n'est pas fait, ce qui devrait être fait. Voilà. Et nous, on est les citoyens, et nous on agit si les élus n'agissent pas.
Donc on comprend bien aussi qu'un des enjeux de la mobilisation, c'est de créer des résistances locales. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes de la mobilisation à Marseille, mais pas seulement ?
À Marseille, on va profiter de cet élan là, de la mobilisation pour la COP pour formaliser un petit peu plus ce collectif qu'on a. Alors à Marseille, il y a des syndicats, des associations, des collectifs. Il y a les gens qui ont organisé Alternativa à Marseille. Il y a le collectif qui a commencé à prévoir ça en 2014 et qui l'avait déjà organisé en 2009, qui est le collectif Climat Marseille. Donc il y a pas mal de gens en fait qui vont se greffer, on pense, à ce mouvement-là, et on va pouvoir continuer les actions comme ça, pas seulement à la fin de l'année et pas seulement en 2016, mais comme on disait tout à l'heure, maintenir une pression constante toute l'année, tous les ans, pour que les négociations avancent, et pas forcément que les négociations, mais aussi pour sensibiliser tous les citoyens, tous les publics, et leur dire, voilà, la cause du dérèglement, c'est la nôtre, il faut que tout le monde agisse, parce que à la fois on maintient de la pression sur la COP21, et à la fois on se dit, il ne faut pas trop en attendre, donc autant faire les choses nous-mêmes.
Il me semble qu'il y a une grosse date à venir, là. C'est le 12 décembre, donc le dernier jour de la COP21, où justement la société civile a décidé d'être dans la rue pour avoir le dernier mot. Que se passe-t-il à Marseille ? Il me semble qu'il y a aussi un petit convoi qui part.
Alors, effectivement, alors là, on est dans la COP, donc il se passe des trucs tous les jours, notamment à Paris, mais aussi à Marseille. Il va y en avoir, à Marseille. Je ne sais pas si on peut tout dire, mais il va y avoir des choses. Il va y avoir une grosse mobilisation de cyclistes à Paris, par exemple, ce week-end. Il va y avoir une mobilisation citoyenne le 12 à Marseille. Qui sera communiqué via les réseaux qui ont déjà fonctionné. Peut-être rappeler l'adresse email de, si vous voulez prendre contact avec le collectif climat, qui s'appelle le collectif climat marseille@riseup.net. Rise comme se lever. Et là, vous pouvez rentrer en contact et puis après être abonné à une liste de diffusion, une newsletter pour être au courant un petit peu de toutes les mobilisations qu'on organise.
Alors, Cyril Pimentel, vous avez parlé d'une mobilisation de cyclistes et vous faites partie également du collectif Vélo en Ville. Le vélo est une alternative à la voiture et du coup, ça me fait rebondir sur la question de l'extraction des énergies fossiles, donc du pétrole qui permet aux voitures de circuler. Et on n'a pas beaucoup parlé de la campagne 350.org. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots, enfin, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette campagne ?
Si, 350, on en parle depuis le 2009. On avait des grands panneaux à ce sujet-là. 350, je pense que c'est mon voisin qui en parlerait mieux que moi, mais 350, c'est la quantité des parties par million. Hein. C'est 350 ppm, c'est les quantités contenues dans l'atmosphère. Vas-y, je te laisse.
C'est la concentration en CO2 de l'atmosphère, en fait. Oui. Pendant 800 000 ans, grosso modo, elle a été stable. Elle a tourné autour de 230 ppm, en fait, partie par million. Et en fait, elle est montée en 2015, brusquement à 400. Et donc, ça a révélé le problème.
Voilà, et c'est le gros problème des énergies fossiles en général. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on continue. Alors, il y a une espèce de dissonance cognitive, là, chez nos élus, au niveau national, qui consiste à dire, alors, on va faire des négociations pour le climat et à la fois à côté de ça, vous voyez bien qu'ils continuent à subventionner l'achat de voitures électriques, par exemple, qui polluent. L'ADEME a sorti un rapport récemment, une voiture électrique, ça pollue plus qu'une voiture thermique au finish. C'est juste que ça pollue ailleurs, en fait. Mais c'est bien connu, le principe de délocaliser la pollution, c'est pratique pour les pays développés. Et donc il y a ces aides, il y a une aide là qui me vient en tête parce qu'elle est particulièrement... Alors il y a l'indemnité kilométrique pour le vélo par exemple qui devait être mise en place et puis donc ils l'ont annoncé pour la COP21, genre on met en place une indemnité kilométrique pour les gens qui se déplacent en vélo et en fait il s'avère que cette indemnité kilométrique c'est un grand rétropédalage puisqu'en fait elle n'est pas obligatoire pour les employeurs, elle est plafonnée à un certain niveau et donc en fait c'est complètement tombé à l'eau. Et à côté de ça, vous avez les fédérations d'associations qui promeut le vélo en ville comme moyen de transport, parce qu'il faut quand même savoir que le transport, c'est quand même le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. À côté de ça, vous avez donc des associations et des fédérations qui se battent pour qu'il y ait plus de vélos en ville et moins de voitures et que ça pollue moins et qu'on soit tous... qu'on vive tous mieux ensemble, et ben ces fédérations, elles ne sont même pas foutues d'obtenir du ministère une subvention qui équivaut à l'achat d'une seule voiture électrique, c'est-à-dire à l'aide de l'achat d'une seule voiture électrique, pour toute une fédération qui va représenter 30 000, 40 000 cyclistes. Quoi. On se demande vraiment ce qui passe dans la tête de nos élus, je ne sais pas. Et pourtant, on leur dit. Hein. Personnellement, moi, je sais que je leur ai dit... un vis-à-vis, donc on peut pas dire qu'ils sont pas au courant, quoi. C'est pas possible.
Merci Cyril Pimentel, merci Jérôme Sambucci et bonjour Emmanuel Chouin. Emmanuel, toi aussi tu as envie de nous parler de ces personnes qui chacune à leur niveau, doucement mais sûrement, contribuent au changement nécessaire.
Oui Alima, j'ai choisi le livre de Bénédicte Magnier, « Un million de révolutions tranquilles » pour administrer à mon tour à nos chers auditeurs une pastille d'espoir. L'auteur est allé à la rencontre d'initiatives portées par des citoyens ordinaires, ceux qui inventent et investissent des formes plus solidaires d'agriculture, d'habitat, de mode de consommation, d'énergie. Délibérément, le livre ne traite pas des actions des grandes ONG humanitaires, car ces révolutions silencieuses manquent cruellement de visibilité. Il s'agit de transformations de proximité qui s'expriment en dehors des cadres de référence traditionnels comme les partis, les syndicats, et ne reposent pas sur une idéologie. Oui, Halima, un autre rapport du citoyen au monde est en train d'émerger. Et pour Bénédicte Magnier, nous entrons dans l'ère de la citoyenneté active.
Alors concrètement, comment est-ce que ces citoyens changent le monde ?
Tu as raison, cette question est le fil conducteur de cet ouvrage. Bénédicte Magnier ne se contente pas d'un inventaire à la Prévert, d'expériences locales à travers le monde. Son chapitre, par exemple, consacré aux énergies, est à mon sens révélateur du pouvoir transformateur de ces initiatives locales. Les gouvernements, acculés à penser l'après pétrole, commencent à prendre en considération des solutions concrètes, initiées et gérées par la société civile. Aujourd'hui, l'idée de ne plus distribuer une énergie unique à partir d'un grand réseau national centralisé fait son chemin. Un modèle plus transversal, soutenu par les collectivités territoriales bien sûr, est en train d'émerger. Il s'appuie alors sur des pôles de production locales combinant plusieurs technologies et des sources d'énergie propre et renouvelable.
Est-ce que tu as des exemples concrets ?
Oui, bien sûr. Les exemples cités par les nombreux exemples cités par Bénédicte Magnier, par exemple au Népal, des microcentrales électriques sont installées sur des petits ruisseaux de montagne. Ces micro-équipements, gérés par les habitants, éclairent 40 000 foyers et alimentent l'économie rurale. C'est modeste, certes. Mais ce mode de production a été reproduit dans plusieurs pays d'Asie et d'Afrique, notamment au Vietnam. C'est plus de 200 000 foyers et cette technologie, des microturbines, commence à être utilisée par des fermiers aux États-Unis. En Bretagne, par exemple, nous disposons du premier parc éolien citoyen en France qui alimente 8 000 foyers. Cette réalisation a été soutenue financièrement par les Cigales et les collectivités territoriales, toujours. Mais ce sont les habitants qui ont pris les décisions et arbitré entre leurs besoins locaux et les nuisances de l'éolien.
Tu peux nous préciser ce que sont les Cigales ?
Bien sûr, les Cigales sont des clubs d'investisseurs, donc d'épargnants, pour le développement d'entreprises solidaires de proximité. Et si on poursuit sur ce projet de parc éolien, d'autres projets citoyens sont en chantier, accompagnés par le réseau Taranis, créé par ses coopérants. Et puis, on peut citer aussi l'Allemagne, où la production d'électricité solaire, en 2012, a atteint un record mondial, l'équivalent de 20 000 centrales nucléaires. Donc l'Allemagne est devenue un des pays leaders en énergie verte grâce à l'implication citoyenne alliée à une forte impulsion publique. Nous assistons ainsi à une réappropriation locale et citoyenne des enjeux énergétiques. En réunissant des habitants d'un même territoire autour de valeurs écologistes communes, cette transition énergétique s'inscrit aussi dans une démarche sociale et renforce le sens de la communauté et du vivre ensemble. Ces 1 million de révolutions tranquilles de Bénédicte Magnier nous interpellent donc dans notre capacité à agir près de chez nous. C'est possible, mais surtout c'est en marche. Le monde nouveau est en train d'émerger à l'échelle du micro. C'est le viatique de Patrick Vivray dans la postface de ce livre de Bénédicte Magnier. Pardon.
Bénédicte Magnier, merci Emmanuel Chouin. Alors, comme le dit Max, on se mobilise.
On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. La menace des catastrophes, plein l'époque est difficile. Temps de crise, on est accro aux énergies. énergies fossiles. Écrasé par les marchandises, pas tiens, maman pousse des cris. L'espoir brisé comme en Arctique, la banquise. Mirage du progrès, on a perdu le cap. Les inégalités s'aggravent alors qu'on taffe comme des malades. Le climat se dégrade, les dégâts sont palpables. Et pourtant les citoyens baissent les bras. Ah, la course au profit égale carnage, ravage. Les pauvres paient la facture et les riches se gavent. On rase le paysage pour un centre commercial. T'as beau chanter la croissance, elle est insoutenable. Gaz de schiste, agrocarburant et nucléaire. Gardez ces fausses solutions, il faut tourner la page. Et face aux multinationales qui viennent nous prendre pour otage, je crie power to the people, construisant d'en bas.
On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise.
Le cœur au bon endroit, on n'a pas peur de se mouiller. Il est l'heure de passer aux actes, attaquer les problèmes à la racine. Changement radical, assez de blabla, ça change quand il y a des résultats. On veut pas rester à l'écart, on veut rassembler l'âge. Viens, mets ta part le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage local. Climat, justice, élevant nos voix, décisif. Notre impact prépare la montée en charge pour la COP21 et bien au-delà. Éviter que des milliers de personnes se noient. Pensez à nos mômes et nous en serons plus. Avec un tour de l'Europe sur des vélos multipasses, on galvanise sur presque 200 étapes. Alternativa, militer dans la joie. Allons changer le système et pas le climat.
On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise.
Et la chanson qui a accompagné le Tour Alternativa de Bayonne à Paris. Je crois que Jérôme Sambucy avait encore un petit mot à nous dire.
Oui, avant de finir, je voulais absolument donner cette idée-là que le combat contre le changement climatique, en fait, devra absolument passer, mais c'est absolument nécessaire, par une redistribution des richesses à deux niveaux, entre les pays riches et les pays pauvres, et à l'intérieur des pays riches, entre les populations riches et les populations pauvres, parce qu'on ne pourra pas trouver de solution sans aider les gens qui en sont démunis. Notamment, on parle de sobriété, mais la sobriété pour quelqu'un qui n'a rien, je ne sais pas quel sens ça a. Et on donne toujours l'argument du manque de ressources, même dans les pays riches, pour effectuer cette redistribution. Mais moi, j'ai par exemple un chiffre à citer, c'est celui du poids des subventions publiques sur les énergies carbonées. Eh bien, il faut savoir que par le monde, il y a 500 milliards de dollars par an qui est donné en subventions publiques, sur les énergies fossiles, contre 100 milliards seulement, c'est-à-dire un cinquième, aux énergies renouvelables. Autre chose, les investissements privés dans le monde, ils sont 4 fois plus importants pour les énergies fossiles que pour les énergies renouvelables. Eh bien, il faut réorienter cet investissement vers l'investissement vert, vers l'investissement qui est en production renouvelable. Et en fait, une dernière solution aussi, c'est de taxer les transactions financières, et ça permettrait à la fois peut-être un début de régulation financière et à la fois de dégager des fonds pour aider à cette transition-là.
Oui, donc tout repose en fait sur des choix, où est-ce qu'on met les priorités et comment est-ce qu'on redistribue les richesses.
Et c'est une question de justice, parce qu'il faut savoir par exemple qu'1% de la population la plus riche émet autant de gaz à effet de serre que 50% des plus pauvres qui en plus sont placés dans des pays qui vont subir les premiers les effets du réchauffement climatique. Donc ça, c'est pas juste.
Merci hein, Jérôme Stambussier de nous donner quelques chiffres bien concrets comme ça. Ça nous permet de nous rendre mieux compte des échelles de grandeur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jérôme Stambussier, merci Cyril Pimentel, merci Emmanuel, merci Sandra. On se retrouve à la rentrée.